Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du quart d'heure corésien, le magazine d'information 100% corésienne est diffusé chaque semaine sur Bram FM et RGB. Cette semaine, nous nous intéressons à la sécurité dans le département. La préfecture de la Corrèze a dévoilé mercredi dernier l'évolution du nombre de cambriolages, de violences, mais aussi ceux de la sécurité routière pour l'année 2022. Nous reviendrons aussi bien évidemment sur la mobilisation de mardi dernier dans les rues de Brive, mobilisation contre la réforme des retraites. Vous entendrez l'inquiétude, voire l'exaspération de certains manifestants qui n'ont pas l'impression d'être écoutés, sinon entendus par le gouvernement. Enfin, c'est aussi l'événement de la semaine. Après plus d'un an de fermeture, le musée Labinche de Brive rouvre ses portes ce week-end. Un musée désormais largement plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Et vous entendrez comment ce musée espère aussi faire rayonner la culture briviste au-delà de ses frontières. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti.
La Corrèze reste parmi les 10 départements les plus sûrs de France.
C'est par ces mots que le préfet de la Corrèze, Étienne Desplanques, a dévoilé les derniers chiffres de la sécurité dans le département. Des données statistiques obtenues sur l'année 2022 grâce aux données récoltées par la gendarmerie et la police. Police qui, je le rappelle, opère sur les territoires de Brive, Tulle et Ducel, alors que la gendarmerie gère, elle, le milieu rural corrézien. Et si le préfet assure que la Corrèze est un département où il fait bon vivre, c'est parce que...
Pour tout ce qui est atteint aux biens. Que ce soit les vols, les cambriolages, les destructions et dégradations, on se retrouve dans les départements les plus sécurisés. Il y a peu d'évolution. Les cambriolages baissent cette année. Ça augmente un petit peu pour les destructions et dégradations, mais sans retrouver le niveau d'avant-crise. Donc le département est plutôt calme.
En revanche, et c'est très important de le souligner, il est une donnée qui inquiète particulièrement la préfecture.
Pour les violences intrafamiliales, nous poursuivons une hausse constante. On vient de reprendre là entre 15 et 20% en fonction des indicateurs. C'est le témoignage que soit il y a de plus en plus de libération de la parole et c'est tant mieux, mais aussi ça révèle toute l'ampleur du phénomène des violences intrafamiliales qui est vraiment le phénomène marquant de la Corrèze.
Selon les données publiées par la préfecture, 60% des coups et blessures volontaires ont lieu dans le cadre familial. Les autorités rapportent aussi que 30% des violences sexuelles ont elles aussi lieu dans ce même cadre qu'est la famille. D'ailleurs, afin de mieux prendre en compte la parole des victimes, les gendarmes corréziens reçoivent en ce moment des formations. Formations afin de mieux comprendre les mécanismes psychotraumatiques que peuvent engendrer ces violences chez les victimes. La dernière formation en date s'est tenue cette semaine à Tulle et a été dispensée par le docteur Claude Rosenthal, gynécologue obstétricien briviste. Il est à l'origine notamment de la maison de soie dans la cité Gaillarde, un espace où justement les victimes de violences peuvent retrouver des ressources pour se reconstruire et tenter de cicatriser les plaies ouvertes par cette violence. Mais lors de ce bilan annuel des chiffres de la sécurité, le préfet Étienne Desplanques notait une anomalie en Corrèze. C'est l'augmentation des chiffres liés aux escroqueries. Une anomalie parce que la Corrèze figure parmi les départements les plus visés par les escrocs. Alors est-ce parce que les plaintes sont plus nombreuses ou que les internautes corréziens sont plus vulnérables? La question reste posée. Mais le constat est là, assure le colonel Xavier Lefebvre. C'est le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze.
Le monde passe de plus en plus par le numérique. Et puis on a une population qui n'est pas forcément habituée à lutter et à être vigilant sur... Même nous, à titre personnel, on arrive de temps en temps à voir des mails litigieux sur lesquels on hésite. Nos seniors ne sont pas du tout habitués à ce genre de phénomène et donc sont plus vulnérables.
Et pour tenter d'endiguer, voire tenter de faire baisser ces chiffres, des ateliers d'information et de sensibilisation sont déjà en place.
On passe par des formations en lien avec des municipalités. On en a fait plusieurs sur Brive, sur Argentat, sur Corrèze. Sur chaque fois qu'un élu souhaite informer sa population, il nous sollicite et on essaye de monter une formation dans une salle des fêtes, peu importe le lieu, pour sensibiliser la population locale au risque justement des escroqueries par Internet.
Et si les seniors peuvent être visés, ils ne sont pas les seuls. Les plus jeunes aussi font l'objet d'une surveillance particulière par les gendarmes notamment.
Les jeunes, c'est un autre phénomène qui est également inquiétant, c'est le cyberharcèlement. On est très vigilant par une action au sein des écoles, très rapidement, à faire prendre conscience des dangers du cyberharcèlement.
Enfin, dernier volet de ces statistiques de la sécurité, ce sont les chiffres de la sécurité routière. En 2022, 146 accidents de la route se sont produits en Corrèze, des accidents ayant blessé 183 personnes et tué 13 autres. Là encore, ces données diminuent. Toutefois, les forces de l'ordre font un autre constat assez alarmant pour le préfet.
Je suis inquiet par le nombre de retraits de permis pour stupéfiants. Il y a quelques années, c'était très marginal. C'était l'alcoolémie qui était le principal sujet. Aujourd'hui, en 2022, on a fait presque deux fois plus de retraits de permis pour stupéfiants que pour alcoolémie. Et ça, c'est un problème de fond. Les gens ne se rendent pas compte que lorsque l'on a consommé des stupéfiants, souvent il y a quelques jours de ça, et bien le résultat lors d'un contrôle, c'est le retrait de permis de conduire.
Et pour être tout à fait précis, en 2022, 1218 permis de conduire ont été retirés en Corrèze. Et ce sont 611 permis, soit plus de 50% de ces permis qui ont été retirés pour des conduites sous emprise de drogue. L'alcool ne représentant entre guillemets que 30% et les excès de vitesse supérieurs à 40 km/h touchent 19% de ces retraits.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
C'est l'une des plus grosses mobilisations en Corrèze de ces dernières années, celle organisée mardi dernier dans les rues de Brive contre la réforme des retraites. Mobilisation que l'on doit à une organisation intersyndicale qui reste toujours unie contre ce projet. Projet qui, je le rappelle, vise d'une part à rallonger progressivement la durée de cotisation et d'autre part donc à retarder le départ de l'âge légal à la retraite. Autant vous dire que l'idée de travailler encore plus longtemps, eh bien, ça ne fait vraiment pas rêver Thierry. 55 ans, il travaille dans le bâtiment.
Les radios montrent une colonne vertébrale complètement défoncée. Les genoux, je peux difficilement me plier et les bras commencent à lâcher. J'ai fait mon apprentissage à 16 ans. Ça fait presque 40 ans que je suis dans le métier. Avec des petites périodes d'arrêt, mais bon, quand on met du cœur à l'ouvrage, de toute façon, c'est surtout ça qui compte, hein.
Un peu plus loin dans le cortège, Alexandra est très visible. Elle porte une grande veste épaisse, orange fluo. Dans son dos, un sigle en quatre lettres, INRAP. L'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Et quand elle décrit son métier, eh bien on comprend très vite que l'archéologie, ce n'est pas vraiment Indiana Jones.
La semaine dernière, j'ai travaillé à côté de Montauban par moins deux. Les locaux n'étaient pas chauffés, on arrive, le café était gelé, encore de la veille par exemple, et on doit travailler à la pelle, à la pioche, par tous les temps. Voilà, donc c'est une grande pénibilité liée aux conditions climatiques, liée à des contraintes de calendrier, donc on doit être là même en hiver. Donc comme les gens qui travaillent dehors dans le BTP, on a exactement les mêmes conditions de travail. Ça peut être sur quasiment un an, comme en ce moment par exemple à Tours, où on a un gros chantier à l'INRAP, mais on peut très bien faire un chantier de 15 jours, 3 semaines effectivement, donc ça dépend, les conditions de travail peuvent être acceptable, on va dire, voire agréable, et d'autres, ben, comme là, en plein hiver, c'est très compliqué. Donc travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans dans ces conditions-là, c'est juste pas possible, en fait. Il faudrait que M. Macron il vienne voir un petit peu ce que c'est que travailler dans la boue.
Juste à côté d'Alexandra se trouve Éloane, son fils, 12 ans. Il écoute, observe ce qu'il se passe autour de lui, et au fond de son regard, on peut y voir une forme de tourment.
Si chaque président met la retraite plus vieux, bah, à la fin, on n'aura plus de retraite. En fonction du travail que je vais faire plus tard, les conditions, imaginons, je travaille jusqu'à 80 ans, ça peut très bien arriver jusque-là. Ça peut être grave quand même. Dans certaines conditions, moi, ça me fait un peu peur.
Cette crainte de ne plus être à la hauteur, c'est ce que vit Laurence en ce moment. Elle est infirmière.
Sans la réforme, déjà, de toute façon, pour toucher ma retraite pleine, je suis obligée de travailler jusqu'à 67 ans. J'ai fait une demande auprès de la caisse de retraite pour connaître, enfin, pour une simulation. Et on me dit qu'à 67 ans, si j'ai cotisé 42, j'ai 1300 euros brut. J'ai envie de profiter un peu de la vie à ma retraite, quoi.
Et cette semaine à Brive, ils étaient des milliers à espérer que leurs craintes soient entendues par le gouvernement. Alors sans entrer dans la polémique des chiffres, la police a compté 5900 personnes alors que les syndicats en ont dénombré 10 000. Une chose est sûre, l'avenue Henri de Jouvenel, juste devant le lycée Cabanis, était mardi noir de monde. L'intersyndicale espère mobiliser autant mardi prochain à Tulle. Un nouveau cortège doit s'élancer dans la ville à partir de 14h.
Le quart d'heure corrézien est à retrouver aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
Nous restons à Brive pour cette troisième étape du quart d'heure corrézien et nous vous emmenons au musée La Binche parce qu'après 454 jours de fermeture, eh bien le musée briviste rouvre. Il s'est fait une nouvelle beauté, notamment pour permettre une plus grande ouverture à tous les publics, souligne son directeur Vincent Rigaud-Jourjon.
L'une des choses les plus importantes, c'est l'accessibilité aujourd'hui du musée aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'était quelque chose qui était compliqué pour nous d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. Aujourd'hui, voilà, la solution est là. Sur les nouveaux espaces, on a un nouvel espace d'accueil et librairie avec un système de dépôt de libraires régionaux sur la librairie. Dans l'ancien musée, entre guillemets, nous avions 10 références et aujourd'hui, nous ouvrons avec 150 références autour du régionalisme, un petit peu de beaux-arts, un très beau rayon jeune public. Et nous avons aussi profité de cette fermeture pour réaliser des produits dérivés qu'on trouve habituellement dans les musées, magnettes, cartes postales, crayons à papier, tote bags et autres.
Et en tout, ces travaux auront coûté 1,5 million d'euros. La ville de Brive en ayant pris à sa charge près de 870 000. Le reste étant versé par des subventions de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'État via la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, mais aussi de l'Europe par le fonds Leader. De quoi réjouir Philippe Lescure, adjoint au maire de Brive en charge de la culture.
C'est un moment important parce que je crois que les brivistes et puis tous ceux qui viennent à Brive, les touristes, les corréziens, vont pouvoir découvrir un nouveau musée en quelque sorte, et je crois que cela va contribuer à l'attractivité renforcée du musée La Binche, et donc c'est un moment très important.
D'autant que ces travaux permettent un véritable bond en avant pour le musée La Binche, c'est ce que souligne son directeur.
C'est un musée qui a connu une restructuration importante au milieu des années 90. Il était temps effectivement de revoir quelques espaces. Je pense en particulier à l'atelier de médiation, avec des nouvelles formules de médiation. Une nouvelle salle de conférence aussi. On passe de 50 places à 80 places assises, avec un beau système de diffusion son, images et vidéos. Et surtout aussi une salle d'exposition temporaire, aujourd'hui digne de grands musées. Nous avons aussi la gestion directe du climat, de la température, de l'humidité dans l'air, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir solliciter des musées nationaux et de grands musées français pour des prêts d'œuvres, pour des expositions temporaires. C'est le cas sur l'exposition Curiosité que nous ouvrons aujourd'hui, qui va durer jusqu'à fin septembre. Nous avons sollicité des prêts d'autres musées.
Le tout, bien sûr, sans oublier ce qui fait l'âme du musée La Binche et participe aussi au rayonnement culturel de Brive et de la Corrèze.
Nous conservons près de 50 000 objets ou ensembles d'objets qui racontent cette histoire de Brive, du bassin de Brive et de la Corrèze, de façon plus générale, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, au début du XXIe siècle. Nous voulons et nous aimons aussi à La Binche, parce que nous avons aussi la gestion de la chapelle Saint-Libéral en centre-ville, présenter de l'art contemporain. Donc aujourd'hui, le musée La Binche continue et va accélérer un petit peu cette ouverture sur les artistes, sur l'art contemporain, qui soit local hein, ou qui soit national, voire international. C'est aussi un souhait sur les années à venir et sur le projet scientifique et culturel de l'établissement.
Chercher à titiller la curiosité, à accompagner pour mieux découvrir, tenter de comprendre, c'est aussi là l'ambition, parce qu'après tout...
Un musée, ce n'est pas un objet mort. Ces objets doivent être partagés, valorisés, on doit les étudier, doivent être regardés, admirés, compris aussi pour certains. Donc c'est l'une des premières missions. Donc c'est pour ça qu'au sein du service des publics, du pôle des publics, il y a des nouvelles formules de médiation qui vont être mises en place dès ce week-end, samedi et dimanche, avec des manifestations gratuites. Je pense en particulier samedi à des visites à trois voies pour découvrir et les foires et les nouveaux espaces et l'exposition Curiosité. Nous accueillons un pianiste, Paul Bénet, qui va jouer d'une façon exceptionnelle du piano de Claude Debussy, un piano qui fait partie de nos collections. On le fait jouer deux, trois fois par an. Ça sera l'occasion d'un concert en libre accès à partir de 16h samedi. la visite à 15h. Dimanche après-midi, de nouveau une visite à 14h de l'exposition Curiosité. À 15h, j'aurai l'honneur d'inaugurer la salle de conférence avec une conférence-visite autour des œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les parents pourront suivre cette conférence et laisser leurs enfants à l'atelier de médiation où il y a un grand atelier qu'on va inaugurer qui porte sur le camion de curiosité.
Alors n'hésitez pas ce week-end à pousser les portes du musée Labinche pour y découvrir ou même redécouvrir les trésors des collections conservées par la ville de Brive. C'est la fin de ce numéro du quart d'heure corrézien. N'hésitez pas à le partager tout autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des petits pouces bleus dans les yeux ou des commentaires dans les dents sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, restez curieux.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.